Que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est une parole forte de l'Évangile qui plaît bien à la rigueur protestante. L'honnêteté. Quand on dit une chose, c'est vrai. Et quand on dit quelque chose, les autres peuvent compter dessus. En fait, curieusement, ce n'est pas ce que dit exactement l'Évangile. L'Évangile ne dit pas que votre oui soit oui et que votre non soit non, mais ce passage de Matthieu 5 va plutôt pour lutter contre ce qu'on appelle les serments, où il dit en effet que dans l'Ancien Testament, quand on jure sur l'Éternel, sur le nom de Dieu, sur quelque chose comme ça, là, il faut que ce soit vrai. Sous-entendu, quand on ne jure pas, on peut se permettre des aménagements. Et le Christ lui pousse les choses à bout en disant « Ce n'est pas la question de savoir si on a juré sur ceci ou cela qui doit faire en sorte que l'on dise vrai, mais quand on dit une chose, que l'on ait juré ou non, il faut que ce soit vrai. Et donc, que votre réponse soit oui ou non, tout ce que vous ajoutez en disant « je le jure » sur la tête de ma mère ou de Dieu ou de ce que vous voulez, n'apporte rien, c'est simplement des façons de tromper le monde. Oui, de tromper le monde parce que il n'y a pas, je crois, pour le Christ, un formalisme particulier qui nous engagerait plus qu'un autre. Si vous voulez, l'important c'est d'être vrai et puis c'est tout. Et le fait de jurer ou de ne pas jurer n'apporte rien. Sinon, on tombe dans des sortes de justifications absolument insensées, comme cette femme de ménage, cette bonne dont on raconte que, ne voulant pas mentir, quand ses patrons lui disaient de prétendre qu'il n'était pas là quand un visiteur important se présentait, disait « Monsieur n'est pas là », mais en mettant son doigt dans sa manche pour indiquer « Il n'est pas dans ma manche ». Donc comme ça, elle ne mentait pas puisque monsieur n'est pas dans sa manche, mais en fait, monsieur était quand même à la maison. Eh bien, ce type de formalisme ne convient évidemment pas à l'Évangile. Le but, ce n'est pas de trouver dans la forme des justifications, mais l'important, c'est que ce que l'on dit soit vrai, et puis c'est tout. Et donc, la question de jurer n'apporte rien. Et même les Américains qui, par exemple, font jurer sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, est à mon avis une forme d'idolâtrie. C'est assez curieux, d'ailleurs, pour un pays aussi protestant. En quoi est-ce que le fait que je jure sur la Bible de dire la vérité m'engagerait plus à dire la vérité que si je n'ai pas juré? De toute façon, je sais ce que j'ai à dire. Et si je dis une chose, c'est que je crois que c'est ce que j'ai à dire. Je peux le jurer sur la Bible, sur le Coran, sur la Torah, sur qui vous voulez, cela ne changera rien. Et par conséquent, il faut simplement avoir, je dirais, une vie cohérente. Et en effet, le Christ a milité, je crois, tout le temps pour essayer de dire qu'il faut que la vie elle-même soit cohérente et continue. Et donc, il n'y a pas des moments où je dois dire la vérité qui me dispenseraient de la dire à un autre moment. Il n'y a pas des temps différents, un temps pour dire vrai quand je jure et un temps pour mentir quand je jure pas. Il n'y a pas non plus de temps liturgique. C'est pour ça aussi que chez les protestants, il n'y a pas de carême. Il n'y a pas un moment dans l'année où je devrais penser aux autres et un moment où je pourrais ne pas y penser. Un moment où je devrais faire attention à ce que je mange et un moment où je pourrais me goinfrer. C'est toute la vie, tout moment, j'ai trouvé une règle de vie et je l'applique, quel que soit le moment, quelle que soit la forme. Et ce ne sont pas à des formalismes particuliers, à des calendriers particuliers, de m'imposer une chose ou une autre. L'important, c'est d'être constant dans sa vie. Donc le Christ a raison, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce que vous ajoutez, ce n'est que pour tromper le monde, en fait. Je crois aussi que cette sortie du Christ contre les vœux, s'opposer et viser aussi à s'opposer à la superstition. Vous savez, ces vœux que l'on fait en disant « si jamais je réussis mon examen, alors je promets de me couper les cheveux ou de les laisser pousser, et si jamais je réchappe à cet accident, je jure de ne plus jamais boire » ou des choses comme ça. Eh bien, ces vœux-là, je crois, sont toujours de mauvais exemples et de mauvaises choses. Il y avait des gens comme ça qui faisaient des vœux dans l'Ancien Testament. En particulier, les nazirs. Les nazirs étaient des gens qui étaient consacrés à Dieu dès le sein de leur mère, et dès avant même qu'ils soient nés, autrement dit. Et en échange de ça, ils devaient respecter des vœux qui étaient de ne jamais se couper les cheveux et de ne jamais boire d'alcool. On a pensé que, par exemple, Samson, bien sûr, faisait partie de ceux-là, qui avait ses cheveux longs, et quand il se coupe les cheveux, il perd sa force. On a pensé que Jésus pouvait être un de ces nazirs. Ce serait d'ailleurs une explication de ce mot « Jésus le Nazaréen ». Bon, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Nazaréen, il est né à Nazareth, ça ferait le Nazarétien, pas le Nazaréen. Et donc on a pensé que l'origine de ce mot Nazaréen pouvait être le mot nazir, et que Jésus était un nazir consacré à Dieu dès le sein de sa mère, ce qui serait l'origine de cette légende de la naissance virginale de Jésus, consacré à Dieu dès sa conception, comme l'étaient les nazirs. Mais simplement, Jésus buvait du vin. Et donc, il ne respectait pas ses vœux des nazirs. Mais peut-être que justement, c'est là quelque chose d'important. Parce qu'on se rend compte que Jésus, toute sa vie, n'a pas cessé de transgresser les règles, de transgresser les paroles sainte de Dieu qui avait été donnée au peuple, de transgresser les commandements. Jésus va transgresser le sabbat et il va dire ce qui compte, ce n'est pas de respecter une parole qui nous a été donnée. Ce qui compte, c'est de faire le bien à celui que l'on peut aider. Ce qui compte, c'est de guérir celui qui est là devant moi et qui souffre. Et même si c'est au prix de la transgression d'une parole divine, d'un commandement divin, je transgresserai cette parole pour aider mon frère et pour le guérir. Et donc, effectivement, du coup, le Christ lui-même, peut-être, en buvant du vin, prouve que l'on peut être nazir et consacré à Dieu, même en transgressant les règles. Et que l'important, ce n'est pas, une fois de plus, le formalisme, ce n'est pas de tenir un vœu, ce n'est pas même de savoir si l'on dit vrai ou faux. L'important, c'est de faire le bien à son frère et d'aider celui qui est dans le mal et dans la souffrance. Et tiens, voilà une chose curieuse. Je suis parti de la rigueur protestante absolue dans le fait de dire qu'il faut dire la vérité, de ne jamais mentir, et voilà que tout à coup, je me surprends à faire l'apologie du mensonge possible pour la bonne cause. Comment ai-je pu en arriver là ? Ce cheminement est quand même avouez-le, assez curieux. Mais peut-être que c'est justement ça le paradoxe de l'affaire. Et même le paradoxe du protestantisme, je dirais. Protestantisme qui est très rigoureux sur la morale. Un protestant est honnête, il ne ment pas, il est franc. Et pourtant, le protestant est libre. Il est libre de, je dirais, de toute morale. C'est une curieuse contradiction. Le protestant n'a qu'une parole, ça c'est sûr. On peut compter sur ce qu'il dit. Et pourtant, les réformateurs ont été les premiers à militer contre ce qu'on appelait les vœux perpétuels, c'est-à-dire les vœux des religieux et des religieuses, qui, à 18 ou même avant, 18 ans, 20 ans, faisaient le vœu de rester en religion et qui se disaient toute leur vie engagés par cette parole qu'ils s'étaient donnée et qu'ils avaient donnée à Dieu. Et les réformateurs avaient dit non, cette promesse qu'ont fait les religieux ou les religieuses quand ils étaient jeunes ne les engage pas dans leur vie et ils peuvent transgresser leurs propres vœux. Voilà une lutte assez curieuse, je dirais, pour ces réformateurs si rigoureux, même pour un Calvin qui ne plaisantait pas sur la morale. Comment peut-il militer pour dire que l'on a le droit de transgresser sa propre parole et finalement de ne pas respecter sa parole, de ne pas respecter ses vœux? Si on part comme ça, alors je peux promettre n'importe quoi. Si on part comme ça, les engagements du mariage ne valent plus rien. Si on part comme ça, les engagements du baptême ne valent plus rien. Que valent les vœux? Que vaut la parole? Que valent les promesses? Eh bien, cela montre que le christianisme est une pensée complexe. Elle est complexe, ce n'est pas une simple morale, et qu'on ne peut pas se contenter de dire « il faut simplement toujours dire la vérité », il faut bien réfléchir. Ce qui est vrai, et je crois que ça je le maintiens dans ce que j'ai dit, c'est que l'Évangile n'a que faire des formalismes. Ce n'est pas une question de forme. Normalement, on dit la vérité et puis voilà. Peu importe qu'on le dise en jurant ceci ou cela. Ce qui est vrai aussi, je le maintiendrai, c'est que la parole engage, qu'on le veuille ou non, parce que la parole, c'est une relation à l'autre. La parole, quand je parle à quelqu'un, c'est quelque chose qui met en jeu la confiance que l'autre a à mon égard. Et donc finalement, la parole, c'est le lien que j'ai avec l'autre, c'est la relation que j'ai avec l'autre. Et de ce côté-là, je pense que d'un point de vue évangélique, nous sommes dans le devoir d'avoir une parole vraie avec l'autre. C'est-à-dire d'être dans une relation juste avec l'autre. Et que l'amour, justement, ce n'est pas forcément le sentiment ni la sympathie, mais que l'amour, c'est d'enlever tout obstacle entre l'autre et moi pour qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle entre l'autre et moi. Et la parole vraie, c'est ça une parole d'amour, c'est d'être avec l'autre dans une relation de vérité. Pas de dire les quatre vérités aux gens, mais d'être dans une relation de vérité, c'est-à-dire que je ne cherche pas à tromper l'autre, je ne cherche pas à être autre chose que ce que je suis, mais ce que je lui dis ce que je suis, et ce que je dis, c'est vrai. Et inversement, je l'accueille et j'entends ce qu'il me dit, je ne cherche pas à le tromper. Et donc je pense que notre parole nous engage, et que, à cause de cela, on ne peut pas se dédire. Même si j'ai promis une chose et que finalement ça m'arrangerait de ne pas tenir ma promesse, eh bien, une parole m'engage, non pas par rapport à moi, mais elle m'engage parce que cette parole, je l'ai donnée à un autre. Et que par conséquent, elle m'engage dans ma relation à l'autre. Et ça, c'est peut-être ça l'essentiel. C'est que ce qui engage, finalement, ce n'est pas la parole elle-même, mais ce qui engage, c'est la responsabilité que j'ai de l'autre à qui j'ai donné ma parole. Et ça, c'est cela qu'ont dit les réformateurs, je crois, ou c'est ce que j'en ai compris. Quand ils ont dit ce qui engage, ce n'est pas la parole, mais c'est la responsabilité que j'ai vis-à-vis de l'autre. Et donc, ce n'est pas la parole que je donne qui m'engage, mais c'est la parole qui a été reçue qui m'engage. Si je suis tout seul, ma parole n'engage que moi, et donc elle ne m'engage pas. Et par conséquent, les vœux des religieux ne les engagent pas, puisque ça ne met personne d'autre en cause. Si quelqu'un promet de vivre dans un monastère et tout à coup décide d'aller vivre ailleurs sur une plage, où est le problème ? Où est le problème ? La seule chose qui nous engage, c'est la responsabilité dans notre relation à l'autre. Et quand on dit « Ah mais oui, mais pour les protestants, le mariage finalement n'a aucune valeur puisque les engagements n'ont pas de valeur et les paroles n'ont pas de valeur », ça n'est pas ça. Dans le mariage, on a un grand engagement parce qu'on est responsable de l'autre. Et d'ailleurs, dans la liturgie protestante, si vous écoutez bien un mariage protestant, le pasteur, à la fin des engagements, dit « Vous êtes ainsi responsables l'un de l'autre. » Et dès le moment qu'on accepte d'entrer dans une relation avec l'autre, on ne peut plus faire n'importe quoi. Mais entre nous, qu'on soit passé à l'église ou non, par conséquent, on n'est pas responsable de l'autre dès le moment qu'on est passé au temple ou à l'église. On l'est déjà, dès qu'on a accepté de rentrer dans une relation avec l'autre. À ce moment-là, on est responsable de l'autre. Et ainsi, on est dans ce que l'on appelle une éthique de la responsabilité. Et les réformateurs ont été contre les vœux perpétuels, tout simplement parce que dans les vœux des religieux, c'est ça qui était en cause, hein, dans les vœux des religieux, la personne est seule. Et ce qu'ils disaient, et ce qui est vrai, je crois, c'est que ce qui fait qu'une personne peut promettre une chose à un moment donné peut simplement n'être plus vrai à un autre, parce que les situations peuvent changer, le contexte peut changer, et soi-même, on peut changer. Et donc le choix peut sembler valable à un moment et ne l'être plus ensuite. Et dans ce cas, il n'y a pas à être engagé par une parole que l'on a donnée seulement pour soi-même, tant que ça n'implique personne d'autre. Et par conséquent, il n'y a pas de nécessité d'être fidèle à, je dirais, à une parole donnée, tant que ça ne concerne que soi. Et il faut toujours conserver cette liberté de pouvoir s'adapter à une situation nouvelle. Pourtant, c'est plus compliqué que ça encore, parce que je me souviens d'une histoire que racontait un de mes collègues une fois et qui m'a toujours grandement choqué. Il racontait qu'il avait vu une vieille religieuse très âgée qui était dans un monastère et il lui dit « Ah, ma sœur, c'est merveilleux, ça fait 60 ans que vous êtes là dans une vie de foi et vous avez toujours la foi. » Et cette vieille religieuse dit « Non, en fait, je crois que je n'ai plus la foi depuis longtemps. Mais si je suis là, c'est que je reste par fidélité pour la jeune femme que j'ai été à 18 ans et qui a pris ce vœu perpétuel de rester dans ce monastère et de prier. Et donc même si je n'ai plus la foi aujourd'hui, je continuerai d'être ici présent, présente, par fidélité pour celle que j'ai été. » Cette histoire m'a toujours grandement choqué. Et je me dis, mais c'est effroyable comme histoire. Il n'y a rien de bon, rien de juste là-dedans. C'est choquant parce que l'important, c'est d'être libre. L'important, c'est de pouvoir s'adapter, de pouvoir changer, de pouvoir revivre. Et il n'y a pas à être fidèle à ce que l'on était. Il n'y a pas à être fidèle à ceux qui sont morts. Notre fidélité, elle est envers ceux qui sont vivants aujourd'hui. Donc nous sommes libres par rapport au passé, par rapport à ceux qui y ont été. Nous sommes libres d'avoir aujourd'hui une vie nouvelle et nous sommes libres aujourd'hui de pouvoir revivre à notre manière, différemment. Nous sommes libres de pouvoir ressusciter. Nous sommes libres par rapport au passé. Ça, c'est une des grandes nouvelles de l'Évangile. Les temps anciens sont passés, nous sommes dans les temps nouveaux. Nous sommes dans une nouvelle création. Et le Christ nous dit « Lève-toi et marche, laisse les morts enterrer les morts, lève-toi et marche, va devant, nous sommes dans une nouvelle création, dans une nouvelle ère. » Ça c'est vrai, et pourtant, cette vieille religieuse avait peut-être quand même quelque chose de juste dans ce qu'elle disait. Parce qu'il est important dans sa vie d'avoir une sorte d'inertie, d'éviter les velléités de l'existence. Il est important peut-être de structurer sa vie par des décisions prises à tête reposée et auxquelles on va ensuite se tenir. Il est peut-être important de se mettre à soi-même des guides et des barrières, connaissant ses faiblesses, de se structurer par des promesses, par des choix que l'on ne va pas renégocier sans cesse. Et donc on ne va pas dire non plus que la liberté du chrétien doit être la liberté de la girouette. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ci, demain, je vais faire ça. Aujourd'hui, je suis pasteur, demain, je serai architecte et après-demain, médecin ou n'importe quoi. On ne peut pas changer sans arrêt au gré des humeurs, au gré des envies, au gré des désirs. Il faut quand même avoir dans sa vie une sorte de ligne de conduite qui nous permette d'avancer quelque part. Et peut-être que ces vœux que nous prenons aussi pour nous-mêmes doivent nous aider à traverser les passages à vide. Sinon, on ne va nulle part. Ou si on n'a pas cette ligne, cette structure forte de notre vie, on ne serait que comme un brin de paille sur l'océan, trimballé par les vagues, un jour ici, un jour là. Et où nous mènerait notre existence? Donc finalement, j'ai peut-être condamné cette histoire de la religieuse un peu vite. Bon, peut-être que c'est exagéré, mais dans le fond, être fidèle à une idée de soi-même n'est peut-être pas une mauvaise chose. Certes, nous ne devons pas tous les jours nous introspecter pour savoir si notre direction prise est la bonne, sinon la moindre faiblesse nous ferait dériver. Et donc nous pouvons nous structurer par des choix et des objectifs. Je le crois. Mais là, j'avoue que j'arrive à un paradoxe que je n'arrive pas à résoudre. Et je ne sais pas quelle réponse donner, parce que je pense tout ce que je viens de dire. Et pourtant, j'ai ensuite relu l'Évangile. Et je me suis dit, y a-t-il dans l'Évangile quelque chose qui aille dans ce sens ? Et là, je suis perplexe, parce que quand je lis l'Évangile, je trouve que la prédication du Christ, au contraire, insiste sur la conversion, sur le changement de vie, ce qu'on appelle la métanoïa, la conversion, le fait de dire « changez radicalement d'état d'esprit, faites demi-tour, changez d'avis, changez votre vision des choses, naissez à une vie nouvelle, passez de ce monde ancien à un monde nouveau ». Et le Christ, sans arrêt, nous invite à être totalement libres, justement par rapport au passé, par rapport aux traditions, par rapport à ce que l'on a été. Et on a l'impression qu'il dit sans arrêt aux gens « Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Aujourd'hui, tu peux être différent. Aujourd'hui, tu peux te convertir. Aujourd'hui, Dieu fait de toi un homme neuf. » Ça, c'est l'Évangile, la liberté totale du chrétien de ne pas être prisonnier de son passé, de ce qu'il était, de sa tradition, de sa famille, de ses péchés passés et de tout le reste. Ça, c'est l'Évangile, cette liberté totale. Et c'est d'ailleurs au nom de cela que les réformateurs ont lutté contre les vœux perpétuels. C'était au nom de la liberté évangélique. Il faut que l'homme ait en tout moment la liberté totale de dire « je veux mener une vie nouvelle ». C'est la liberté évangélique. Et donc, le pire, c'est quand nous sommes englués dans les traditions, englués dans le fait, du passé qui nous colle à la peau et qui nous empêche de changer, qui nous empêche de vivre une vie nouvelle aujourd'hui et de dire aujourd'hui, ma vie commence, en fait. Et le passé, je m'en fiche complètement, n'a aucune valeur. Tout se tourne vers l'avenir. Ça, c'est la liberté évangélique, la liberté du chrétien. On peut même se demander si le Christ n'a pas sous-estimé les forces de résistance qui sont en nous. Et certes, le Christ dit « tu peux ressusciter, naître de nouveau », mais ce n'est pas si simple. En fait, ce n'est pas si simple. Est-ce que le Christ n'a pas sous-estimé le poids du passé ? C'est la grande question. Mais je crois que le Christ, si vous voulez, dans l'Évangile, ne donne pas une sorte de méthode de transformation et de renouvellement de sa vie. Le Christ donne un idéal. Et il dit simplement « c'est possible et il faut y croire ». Maintenant, dans la modalité pratique, il faut s'en donner les moyens. Et c'est très intéressant, pour cela, de réfléchir à la façon qu'ont les associations professionnelles qui aident les gens à changer de vie, en particulier dans des problèmes de dépendance, par exemple de dépendance à l'alcool ou aux drogues ou autre chose, comme la Croix-Bleue ou les alcooliques anonymes. Et effectivement, ce qu'ils montrent, c'est que on peut changer de vie, mais qu'il faut effectivement à ce moment-là céder de vœux, c'est ce qu'ils font, il y a des promesses, mais qu'il faut que ces promesses soient d'abord à peu près réalistes, et donc l'alcoolique va promettre de ne pas boire pendant une heure, il y arrive, il est content, ben ensuite ce sera deux heures, une journée, un an, et donc de se donner des vœux qui vont aider à avancer, mais des vœux qui sont là pour structurer et pas pour bloquer. Et donc il faut que ces objectifs que l'on se donne puissent être renégociés en quelque sorte. Et d'autre part, il faut aussi qu'il y ait là une instance de pardon. C'est-à-dire, même si j'ai raté mon engagement, ça n'est pas grave, je peux repartir et en reprendre un. Et c'est là où intervient la présence de Dieu. Parce que dans toutes ces associations, curieusement, même les plus laïques, comme les alcooliques anonymes, il montre que la foi est une chose essentielle pour y arriver. Parce que Dieu est deux choses. C'est à la fois une instance de non-jugement qui nous rappelle que Dieu, lui, a une bonne image de nous. Même si nous avons une mauvaise image de nous, Dieu, lui, a une bonne image de nous. Et donc, pour lui, nous sommes quelqu'un. Et pour lui, nous pouvons y arriver. Et Dieu a confiance en nous. Et même si nous chutons, il nous pardonne et nous dit « tu peux te remettre debout et tu peux y arriver ». Et ensuite, parce que la foi est une puissance extrêmement forte chez un être humain. Et donc la foi est quelque chose qui peut aider à transporter des montagnes et à accéder à une vie nouvelle. Donc c'est quelque chose de neuf qui peut accéder, qui peut surgir dans notre existence avec l'aide de Dieu. Mais qu'à ce moment-là, il faut effectivement, je dirais, garder ces deux choses qui sont à la fois cette capacité de liberté évangélique qui fait que dans ma liberté évangélique, je peux choisir de changer. Et d'autre part, que notre vie soit structurée, alors je dirais non pas par des vœux, mais par un idéal. L'idéal, c'est ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est une visée, mais une visée lointaine. Une visée qui donne la direction globale vers laquelle on veut aller. Et c'est la foi qui va empêcher que nous soyons un brin de paille sur la mer. La foi, c'est la direction globale. Ensuite, dans les détails de la vie quotidienne, là, on fait ce qu'on peut. Et peut-être que parfois, eh bien, pour aller tout droit, il faudra que je fasse un petit crochet par la gauche ou par la droite, et si je me suis éloigné, je reviens. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une direction globale, une visée, une ligne de conduite, un idéal qui oriente ma vie par-delà les vicissitudes de l'existence et qui nous aide à avancer. Et donc je crois que l'engagement du chrétien, c'est un engagement souple, c'est un engagement modulable. Dès qu'on a un idéal rigide, fixe et trop précis, on tombe dans le fanatisme ou on tombe dans l'intégrisme. C'est le problème de Jephté. Jephté qui fait un vœu à l'Éternel. Si je gagne la victoire, la première personne qui sort de ma maison, je la tue. Pas de chance, c'est sa fille. Alors, quelle va être la conclusion morale de l'histoire dans la Bible ? Aucune. La Bible n'est pas un livre de morale, mais il est évident que Jephté a eu tort. Jephté a eu tort. Je dirais, il a mis plus d'importance dans un formalisme d'une parole donnée que dans la vie de sa propre fille. Donc Jephté a eu tort, clairement, il a eu tort. C'est un assassin. Jephté est un intégriste. Il est dangereux, cet homme-là. Eh bien, nous ne devons pas, au nom de nos principes, tuer les gens. Parce que l'important, c'est l'attention à l'autre. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Plus important que la parole, plus important que les engagements, plus important que les vœux, plus important que tout, ce qui compte, c'est l'attention à l'autre. Ce qui compte, c'est l'optimisation de la vie. Ce qui compte, c'est l'amour. Et ça, c'est une chose complexe, parce qu'effectivement, la vie n'est jamais toute claire. C'est jamais tout bien d'un côté, tout mal de l'autre. Comme si on pouvait dire, c'est bien toujours bien de dire la vérité, toujours mal de mentir. Ben, ça dépend, c'est plus compliqué que ça. Mais l'Évangile ne dit pas non plus, puisque c'est compliqué, tout se vaut, vous pouvez mentir, blasphémer, outrager les autres, ne pas tenir vos engagements. L'Évangile ne dit pas cela non plus. Il y a une liberté évangélique, mais il y a par-dessus tout un commandement qui est le commandement de l'amour et qui est l'attention à l'autre. Et nous devons sans cesse essayer d'optimiser pour trouver comment nous allons optimiser l'amour, comment nous allons obtenir le moindre mal ou le meilleur bien possible parmi tout ce que nous avons, sachant que tout sera toujours de toute façon un mélange de bien et de mal. Mais l'important, c'est que nous sommes, nous, je dirais, sous la présence d'un Dieu qui, lui, n'a qu'une parole. Et sa parole, c'est « Quoi qu'il arrive, je t'aime ». Et je crois que nous pouvons être, finalement, plutôt ressembler au Dieu dans lequel nous croyons. Celui qui croit dans un Dieu qui aime et qui pardonne arrivera dans sa vie à être mu par une sorte d'idéal d'amour, de pardon, mais même de pardon par rapport à soi-même, qui fera que même si je n'ai pas tenu ma parole, eh bien j'essayerai d'optimiser pour que ce soit le moindre mal ou le meilleur bien qui prédomine. Celui qui croit dans un Dieu qui juge et qui condamne sera nécessairement quelqu'un qui va juger et condamner, peut-être au nom de ses propres engagements. Et donc le Dieu dans lequel nous croyons, c'est un Dieu qui n'a qu'une parole, c'est-à-dire que lui, sa parole, c'est « je t'aime ». Et là-dessus, il ne le remettra jamais en cause. Une parole certaine, sûre, certain, Dieu nous aime et nous donne son pardon. Quoi qu'il arrive, Dieu nous aime. C'est ça la parole. Et cette parole nous engage, à nous, d'essayer de faire que notre vie soit aussi une parole d'amour. Et pas des paroles de formalisme, d'engagement, de vœux, tout ça, dont j'ai rien à faire. Mais soit une parole d'amour. Et que toute notre vie, autant que possible, soit un acte, je dirais, d'amour, une parole d'amour, c'est-à-dire une attention à l'autre, une façon d'essayer d'être dans une relation le plus juste possible à l'autre, en se disant, eh bien, je ne cherche pas à mon propre intérêt en mettant des murailles de mensonges et de faussetés entre les autres et moi, mais je suis dans la vérité par rapport au monde. Être dans la vérité, c'est prendre le risque de se perdre aussi, de se dissoudre dans le monde. C'est ce qu'a fait le Christ, qui a été tellement vrai qu'il s'est finalement dissous dans le monde. Mais en même temps, c'est comme cela qu'il a trouvé la vie. Et donc le mensonge n'est qu'une protection. Les enfants le savent bien d'ailleurs, hein. On ment pour se protéger. Le mensonge n'est qu'une protection, l'amour est une vulnérabilité. Mais Dieu lui-même a pris le parti de nous aimer pour nous inviter à notre tour à aimer. Et Dieu nous dit, comme je t'aime, tu es invité à aimer. Et toi, tous les jours, tu peux avoir la liberté des enfants de Dieu, la liberté de choisir dans un sentiment réel de responsabilité ce que aujourd'hui tu feras pour aimer le mieux possible et pour contribuer avec l'aide de Dieu à l'optimisation, je dirais, de la vie, de la joie, de la paix, de la tolérance, de l'amour dans ce monde. Amen.